Et vous écoutez France Culture. Au bout d'un court instant, on pouvait voir le bonhomme charbon descendre et se lancer dans le monde imaginaire. Le dessin animé était né. Émile Cole, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui, ce soir, au lendemain du Festival international de l'animation d'Annecy, reçoit Laurent Vallière, auteur à la Martinière, d'une ample et méticuleuse histoire de l'animation française. Chronique également dans cette émission de la sortie DVD de La Planète Sauvage, de René Laloux et Roland Topor, et de l'exposition Winsor McCay, visible à Cherbourg. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre mis ce soir sous le signe de l'animation, et ce grâce à vous Laurent Vallière, bonsoir.
Bonsoir François.
Laurent Vallière que l'on connaît bien, je dirais à Radio France, puisque vous êtes également producteur à France Musique, d'une émission extrêmement suivie sur la comédie musicale.
Oui, c'est exact.
On peut donner les repères.
Oui, c'est le dimanche, c'est demain matin à 11h.
Demain matin, quel sujet?
Alors demain matin, oh, c'est un compositeur américain qui s'appelle Dave Malloy. Il a été nommé multiples fois cette saison au Tony Awards. C'est les Oscars du théâtre américain. Et figurez-vous qu'il a adapté Guerre et paix en comédie musicale.
Et c'est ce dont nous parlerons demain sur France Musique.
Voilà, voilà.
Voilà, bah en tout cas, on est heureux de vous avoir ce soir sur France Culture pour évoquer donc ce maître-livre sur l'histoire de l'animation française, la French Touch. On va voir que l'expression fait parfois débat. Je serai en compagnie ce soir de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Bonsoir, personnage très animé, comme chacun sait.
Bah, évidemment. Et je voulais signaler une autre publication.
Chose.
Bah oui, juste là, au moment de dire bonjour, une publication dans laquelle je ne suis rien, si ce n'est que chaque année, je me la procure, puisque c'est l'annuel des fiches du cinéma. C'est, vous savez, c'est une publication très attendue, puisque chaque année, ils sortent ça, et il y a une page par film sorti. Donc il y a plus de 600 films sortis, donc c'est tous les films sortis en 2016, et y compris, du coup, le moindre film d'animation est fiché, avec un résumé complet. C'est-à-dire que c'est vraiment des informations de première main pour les cinéphiles. Il faut absolument s'acheter ça parce que on y voit répertorier le moindre film cannibale. Le tout est qu'il soit sorti sur un écran en France et c'est bon. Et il a sa page.
Et pour se les procurer, on écrit à qui?
On va en librairie. On va en librairie et c'est tout simplement, vous allez dans votre bonne librairie et si vous habitez loin et que votre librairie...
Bah, c'est demandez, où loin
vous demandez là, qui vous le commande, mais vraiment, il y a un service en librairie.
Et la maison d'édition, c'est les fiches du cinéma.
Voilà, absolument.
Ça. Très bien.
Et ça s'appelle l'annuel.
Amis cinéphiles, tous à vos commandes, à vos boîtiers de commandes, donc pour cet annuel, donc du cinéma français. Bonsoir Fausto Fazulo.
Bonsoir François.
Avec lui, une actualité d'un genre peut-être différent. Parce qu'il existe des fiches de Mad Movies, parce que là aussi, quand on voit le nombre de films que depuis les origines vous avez répertoriés, ce serait pas mal ça.
Et vous mettez le doigt sur un projet qui est en cours.
Ah !
Voilà, sur un projet qui est en cours et qui devrait voir le jour, théoriquement, d'ici la fin de l'année ou peut-être janvier 2018.
C'est un scoop
considérable. Ah oui, c'est un scoop de première main. et qui serait effectivement un annuel de cinéma fantastique et qui serait élargi aux sorties salles, mais aussi aux sorties vidéo et VOD.
Ce que nous attendions depuis tellement d'années.
Donc j'ai pas encore commencé la liste et j'ai du pain sur la planche. Donc.
Enfin, plus directement, donc avant cet événement considérable, les parutions liées à Mad Movies, vous êtes rédacteur en chef, de même qu'Atome, la revue des amateurs de manga, donc vous êtes également le fondateur et rédacteur en chef.
Eh bien, pluie de publications cet été, donc le numéro double de Mad Movies sera consacré à la sortie en septembre de la nouvelle version de ça, donc il y avait eu un téléfilm réalisé par Tommy Lee Wallace.
Roman de Stephen King parmi les plus fameux.
Exactement, et on a eu la chance d'aller rencontrer le réalisateur sur son banc de montage à Los Angeles, réalisateur qui s'appelle Andrés Mousquet, qui est un Argentin qui avait réalisé Mama, qui avait été récompensé à Gérard May il y a quelques années. Donc un sujet spécial pour le numéro d'été de Mad Movies. Et il y aura aussi d'autres numéros spéciaux, un numéro dédié à la saga Rocky et un autre numéro dédié à la saga La Planète des Singes à l'occasion de la sortie du nouvel opus au mois d'août.
Très bien. En tout cas, vous avez pu découvrir avec le livre de Laurent Vallière qu'il existait une autre animation que celle du Japon.
Oui, je le savais aussi, hein, vous inquiétez pas, merci. Mais Mais oui, j'ai appris beaucoup de choses.
Voilà, ben nous tous également. Mais avant de s'enfoncer dans cet univers donc de l'animation française, eh bien on va, comme tous les samedis, ouvrir l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et la lettre, chère Céline, ce soir, et la lettre...
Eh bien, j'ai l'embarras du choix pour la lettre, puisque je vais vous parler d'un abécédaire. Donc ça pourrait être P comme pute, par exemple, L comme louve, S comme soupeuse, et je vais vous laisser choisir. J'avais envie, en fait, de me livrer à un petit cours de langue, de vocabulaire plus précisément, voire même tester les connaissances de notre invité Laurent Vallière en matière de mots du joli monde, terme poétique créé au XVIIIe siècle pour parler des femmes galantes, des demoiselles du monde ou des filles du monde, comprenez, des prostituées. Alors pour cela, j'ai entre les mains un joli petit livre rose chair où le graphiste s'est amusé à évoquer la forme d'un sexe féminin en agençant les lettres du titre. Ce livre s'appelle « Du couvent au bordel, mots du joli monde » et a été écrit par Claudine Brécourt-Villard, auteure, linguiste et professeure de littérature. Elle avait notamment sorti en 2004 avec l'écrivaine Régine Deforge un ouvrage intitulé « Les poètes et les putains », une anthologie de 250 poèmes et chansons qui parlaient des prostituées. Et on pourrait dire d'une certaine manière qu'elle a souhaité reprendre ce travail autour de la prostitution en s'adressant dans l'au-delà à Régine Deforge. D'ailleurs, le livre lui est dédié. C'est donc un glossaire, vous l'aurez compris, qui rassemble le vocabulaire du monde des prostituées de la pègre, des vocables souvent argotiques, d'une richesse exceptionnelle. Et pour vous donner un ordre d'idée, le linguiste Pierre Guiraud, dans son dictionnaire érotique, avait trouvé 500 synonymes au mot prostituée. Claudine Brécourt-Villard en propose un peu moins, puisque le parti pris de son livre n'est pas l'exhaustivité. Elle a voulu illustrer ce langage avec des citations provenant de la littérature, mais aussi de vaudeville et de chansons, nous permettant ainsi de savoir comment les écrivains, exclusivement des hommes, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, période que l'auteur a choisi de couvrir, ont pu percevoir et nommer les prostituées. Et la réponse est fort mal. Et je ne pense pas faire de grandes révélations en vous répondant cela. Donc on trouvera une floraison de synonymes au mot prostituée avec quelques constantes dans les thématiques, leur rapport à la bestialité. Donc elles se nomment alors morue, crevette, chienne, guenon, truie. On note une prédilection pour les volatiles, chouette, crue, surtout de basse-cour avec poule, attestée dès 1866, cocotte et cocodette, onomatopée reprenant le gloussement de la poule qui poursuit son coq. Une autre constante pour les désigner leur lieu de racolage, elles deviennent alors roulure, rôdeuse, traînée, vadrouille, et sans oublier leur lien à la saleté. Pute, rappelons-nous, vient du latin pudida, qui veut dire puante. On ne sera donc pas étonné de trouver dans notre livre les entrées gadou, punais, souillon, paillasse, salope, vessie, latrine et même peau de chambre. Et j'y vais d'une citation. La femme n'est pour moi d'ailleurs qu'un pot de chambre où j'aime à décharger la liqueur de mon membre. Phrase que l'on doit à l'élégant Louis Prota, auteur bien oublié de nous tous depuis. Citation extraite de sa tragédie parodie intitulée Serfès. Ça date de 1864. Et en matière de citations nauséabondes et misogynes, on se rendra à l'entrée Boîte à Vérole, qui désigne au XIXe siècle la prostituée qui ne respectait pas les visites sanitaires et le bordel de dernière catégorie. Citation que l'on doit cette fois-ci à Guy de Maupassant, et je le cite. Alléluia, j'ai la vérole. Et par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper, je baise les putains des rues, les rouleuses des bornes. Et après les avoir baisées, je leur dis, j'ai la vérole. Et elles ont peur, et moi je ris, ce qui me prouve que je leur suis bien supérieure. Donc ça, c'est une lettre à Robert Pinchon qui date de 1877. Et pour finir sur une note un peu plus gaie, il suffit de quitter le 19e siècle et de remonter dans le temps pour parler des liens lexicaux entre la prostitution et le monde religieux. On découvre alors que les prêtresses de Vénus et les sœurs, terme du 17e siècle, se livrent au culte de l'amour sur l'autorité des mères abbesses, mot du 18e, pour désigner les maquerelles tenant leur bordel, bordel nommé aussi couvent ou abbaye de Sofratus ou autre variante, abbaye de Clunis, Clunès en latin signifiant fesse. Ce qui nous ramène au titre de cet ouvrage, Du couvent au bordel, mots du joli monde, un livre de Claudine Brécourt-Villard sorti aux éditions La Table Ronde.
Laurent Vallière, guerre, sans vouloir émettre d'hypothèses sur les mœurs des animateurs français, on peut en tout cas poser la question, y a-t-il un cinéma d'animation érotique en France ?
Au Festival d'Annecy, là, il y a 10 jours, il y avait pas mal de films qui traitaient ce terme-là, notamment des gros plans sur des jeunes femmes qui se faisaient du bien, ou sur des jeunes femmes qui devenaient en fait des hommes, et ou des rapports sexuels, effectivement, en gros plan. Et il y avait aussi, alors ça n'a aucun rapport, mais ça parle de sexualité, il y a quand même pas mal de films qui traitaient d'homosexualité, des histoires de lesbiennes, des histoires d'homosexuels.
Film français, film canadien,
il y a notamment un film qui s'appelle I Love Girls, je crois que c'est un truc comme ça, où c'est une jeune fille qui raconte un peu la découverte de sa sexualité, des personnages qui ont un visage d'animaux en fait. C'est très tendre.
Avec les films canadiens sur la sexualité, Céline Duchesnet.
Ah, c'était le fameux film d'animation, le clitoris, Lori Traversi, et qui en promet un futur sur la masturbation. Mais ce sera prêt pour 2019, donc il faut un peu de patience.
Mais il y avait même des séances à Annecy de films érotiques vers 23h, deux séances comme ça qui ont lieu.
Est maintenant venu pour nous de nous occuper du sujet central de ce mauvais genre de ce soir, l'animation française, l'animation à la française, la French Touch de Laurent Vallière. Wojtek Kilar pour Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud. Là, on est tout de suite au cœur du sujet. Laurent Vallière avec ce classique de l'animation française dont nous allons évidemment abondamment parler dans cette émission. Mais avant cela et avant d'envisager toute la dimension historique de votre livre, un petit point sur l'actualité de l'animation mondiale. Vous étiez à Annecy. Quels en ont été les grands moments?
Paradoxalement, il y avait
les émotions, les grands émois.
Il n'y avait pas beaucoup de films français dans les courts-métrages présentés, paradoxalement, mais il y a toujours des cycles comme ça dans l'animation. J'ai vu un film que j'ai adoré. C'est avec un graphisme très doux, mais qui fait penser un peu au graphisme des années 30. C'est l'histoire d'un ogre. Ça s'appelle L'Ogre. C'est de Lorraine Brébant. Je crois que ça a obtenu le cristal, une mention en fait parmi les prix du court-métrage. Et c'est l'histoire d'un... l'histoire d'un ogre qui vient dans un grand restaurant et qui se met à manger tout d'un coup aussi les personnes de ce restaurant et qui finalement ressort un petit peu groggy et se met à vomir même une baleine. C'est un très beau film, tout en couleurs, très 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 doux et en même temps avec une signification. Je faisais partie donc du jury du court-métrage. On savait pas très bien si c'était une signification écologique, une signification anticapitaliste, mais en tout cas c'est un film qui m'a beaucoup marqué.
Les deux sont pas incompatibles.
Oui, les deux sont pas incompatibles. Et le cristal du meilleur court-métrage est revenu, figurez-vous, à une comédie musicale, mais qui fait penser en fait un peu au film de Wes Anderson. Ça s'appelle The Burden. Alors c'est une Suédoise qui a réalisé ça. Elle s'appelle Nikki Lindroth von Bar. Et c'est un truc vraiment délicieux. En fait, ça commence dans un décor très minimaliste. C'est, comme on dit, c'est de l'animation en volume. Et vous avez des poissons dans un hôtel assez lugubre, et qui chantent chacun sur le pas de leur chambre leur solitude, avec le patron à la réception qui dit voilà, ici on reste souvent tout seul, et avec un chant assez lugubre aussi, mono, presque une seule note. Et après on passe à des gars dans une sorte de fast-food qui se mettent à danser des claquettes tout en disant que la vie est très dure. Après on se retrouve toujours en stop-motion dans un call center, vous savez, là où les gens passent des coups de téléphone pour vous embêter. Voilà, et en fait ça raconte de façon très jolie et de façon un peu minimaliste, voilà, toute la charge que la vie vous incombe, vous fait peser, et comment on peut un petit peu s'échapper de tout cela simplement en faisant un pas de côté et en faisant un pas de danse. C'est vraiment très joli. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis sinon, moi j'ai vu mon coup de cœur. Il y a deux coups de cœur. Il y a un film absolument étonnant, français, qui était entièrement fabriqué au Japon et qui est vraiment très différent de ce qu'on peut attendre de l'animation française. Ça s'appelle Mutafuka. C'est inspiré d'un manga japonais assez violent, avec beaucoup de sang, beaucoup de meurtres.
Oui, c'est une bande dessinée française, en fait.
C'est une BD française.
Oui, hein. C'est une BD française, ouais.
Et ils l'ont adapté en dessin animé, et c'est absolument bluffant. Je crois qu'il n'y a même pas de distributeur en France, parce que je ne sais pas qui aura le courage de le sortir. Mais ça fait penser un peu à du Kill Bill, ça fait penser un peu aussi à du Chihiro, dans la façon où il y a des monstres qui deviennent un peu gluants. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, mon coup de cœur, c'était un film qui va sortir le 30 août, et qui s'appelle « De l'autre côté du monde », je crois, « Dans un recoin du monde ». Un réalisateur qui s'appelle Shinao Katabuchi. En fait, ça se déroule avant le bombardement d'Hiroshima, à 20 km d'Hiroshima. Vous connaissez certainement le film Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, qui est un chef-d'œuvre du genre. Et alors, c'est ce genre de film qu'on voit une fois dans sa vie, parce qu'après, on pleure les larmes de son corps, parce que c'est l'histoire de deux enfants qui vont mourir à Hiroshima, donc ça, c'est quand même terrible. Et en fait, c'est un pas de côté, c'est inspiré d'un manga japonais, et en fait, ça raconte le destin d'une jeune fille, 30 ans avant Hiroshima, on la voit grandir, et ça raconte avec énormément de réalisme, c'est la vie quotidienne au Japon avant, alors que les Américains sont en train de bombarder, qu'il y a plein de choses qui sont très compliquées, que la vie est très compliquée. Et le réalisateur a presque fait du ozu, je parle devant Philippe Rouillet, mais c'est presque du documentaire sur comment on vivait au Japon dans ces années-là, comment le fait qu'il y avait très peu le rationnement était très, très limité. Et donc, par exemple, le riz, on le faisait bouillir d'une certaine façon pour qu'il prenne, un peu comme le popcorn, une grosse épaisseur. Et il a été très, très loin dans la recherche documentaire. Par exemple, évidemment, on arrive au moment du bombardement d'Hiroshima, et il s'est documenté pour savoir exactement, quand on était à 20 km d'Hiroshima, le flash qu'on voyait de loin, combien de temps il prenait, c'était à peu près 2 secondes, et combien de temps mettait le son du bombardement pour arriver jusqu'à Kure, à savoir c'était 50 secondes. Voilà, c'est très poétique aussi, c'est vraiment un film admirable, très bien écrit, avec à la fois de l'animation traditionnelle qu'on peut imaginer de Miyazaki, mais aussi quand il y a des moments très durs et qu'il y a des morts d'enfants, il fait des ellipses en faisant par exemple des dessins à la craie sur un tableau noir qui bouge. Voilà, c'est vraiment un très beau film que je conseille quand il sortira le 30 octobre.
Alors, des dessins à la clé sur un tableau noir qui bouge, ça nous rappelle étonnamment et opportunément les débuts du dessin animé à la française et les premiers travaux d'Émile Cole, 1892. 125 ans plus tard, on peut dire que l'animation est toujours là en France, avec des péripéties et des figures et des thématiques très très variées. Ce livre, donc, qui appartient à ce qu'on appelle la catégorie beau livre, donc Laurent Vallière, que vous publiez chez Lamartinière Arte, en même temps qu'on va en parler avec Philippe Rouillet, la sortie en Blu-ray et DVD de La Planète Sauvage de Lalou et Topor. Ce livre, quelles ont été un peu les étapes du projet? Parce que, est-ce qu'il y a beaucoup de documents? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de témoins pour faire l'histoire de l'animation française? Est-ce qu'aujourd'hui, on a tout coup des franches?
Oh oui, il y a quand même pas mal de livres qui sont parus. En fait, il faut utiliser beaucoup de livres, effectivement. En fait, il est né, ce projet, à France Culture, tout bêtement, il y a 10 ans, lorsque j'avais réalisé une série qui s'appelait Histoire du cinéma d'animation. Et déjà, à l'époque, il y avait pas mal de documentation. Il y avait les éditions Dreamlands, par exemple, qui, pendant un certain temps, étaient spécialisées dans les livres sur l'animation et qui avaient comme ça sorti des biographies de René Laloux ou de Omer Bouquet ou même de Paul Grimaud, par exemple. L'autobiographie de Paul Grimaud était parue chez Dreamlands. Il y avait aussi des livres de d'Olivier Cotte sur l'histoire de l'animation dans le monde. Et puis quand même, il y a tout un travail qui a été fait aussi par des associations. Je pense à la revue 1895 qui a publié plusieurs numéros sur l'histoire de l'animation en France.
Notamment Émile Cole.
Et notamment Émile Cole. Et notamment aussi Robert Lortac. Enfin Lortac, voilà. et Marius Ogallo.
Qu'on découvre dans votre livre. D'ailleurs.
Voilà, qui sont des publicitaires. Et puis je crois qu'il y avait encore un...
Par exemple, vous citez beaucoup d'entretiens en positif. Qui est une revue. Ben oui, parce que qui est une revue qui historiquement, c'est. Bah, on avait Ben Ayoun, hein. Vous le citez voilà, aussi, qui avait dès la fin des années 50 se positionner contre Disney. Il y a eu une tradition toujours à positif de s'intéresser à l'animation, donc de faire des entretiens au fil des ans que vous citez et qui sont effectivement un trésor. De documents, quoi.
Ah bah effectivement, Gilles Simon a interviewé les plus grands après Robert Ben Ayoun.
Oui, et puis entre temps, Berthomé a travaillé sur Grimaud, et puis voilà, et puis maintenant il y a Bernard Genin qui est très actif. À positif. Et il y a eu Pagliano aussi.
Jean-Pierre Pagliano.
Voilà, qui a collaboré. Mais... Enfin, il y a une tradition vraiment en France de
l'histoire de l'animation.
Il y a pas mal de documents et puis il y a aussi quand même des héritiers qui sont vivants par exemple je parle des marionnettes incroyables le roman de Renard de
j'ai oublié Starevitch. Starevitch.
Je parle des
Ladislas Starevitch dont on a parlé dans cette émission voilà. Quand les DVD sont sortis d'ailleurs.
Voilà le roman de Renard de Ladislas Starevitch sa petite fille conserve encore précieusement toutes les marionnettes chez elle, elle les laisse à disposition, elle essaye d'organiser des expositions. Voilà, il y a quand même du matériel et des gens qu'on peut rencontrer pour parler de cette histoire, oui.
Alors, en ouvrant ce livre, on tombe sur une préface coruscante, comme on dit, de Michel Oslo, qui dit que la French Touch n'existe pas. Alors, ce concept-là, comment un peu essayer de le cerner, de le définir
déjà, est-ce que c'est d'où ça, qui a lancé
voilà,
le premier
d'abord, l'histoire du mot, puis ensuite, est-ce que ça signifie une manière technique de travailler l'animation, un certain nombre de thématiques, de personnages, un style, une esthétique, une manière de produire. Qu'est-ce que c'est, en définitive, que la French Touch ?
Christophe Serrant, qui est directeur de l'animation à DreamWorks, toujours aujourd'hui, qui est un élève issu des Gobelins en 1977, et qui est parti d'abord à Londres, puis aux États-Unis, tout simplement parce qu'il n'y a pas de boulot en France. Hein. Faut bien voir qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de production d'animation. Raconte que la French Touch, en fait, c'est né dans les années 90, c'est plutôt quelque chose au sein du gouvernement. Je crois que c'était Lionel Jospin me raconte-t-il. J'ai pas pu retrouver cet article qui avait dit en visitant l'IDEC qui était à l'époque donc la FEMIS, qui avait dit voilà il y a une French Touch actuellement aux États-Unis et c'est vrai que dans les années 1990 il y a eu tout un pan d'anciens élèves des Gobelins qui sont partis aux États-Unis et qui étaient d'abord partis travailler à Londres. C'était à l'époque où Steven Spielberg avait lancé ses studios Amblination. Ils avaient notamment produit avec Disney Qui a peur de Roger Rabbit, Qui veut tuer Roger Rabbit et ils avaient Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et ils avaient enchaîné sur Fivello Far West, des choses comme ça. Et après, il raconte Christophe Serrant qu'ils avaient été embauchés par Katzenberg lorsqu'ils avaient décidé de créer le studio DreamWorks. Donc le mot French Touch vient de là, mais lui, il dit plutôt French Connection, parce qu'en gros, c'était tous les gens des Gobelins qui arrivaient, qui faisaient venir aux États-Unis aussi les autres diplômés de l'école des Gobelins. Donc je crois que le mot vient de cette période-là. C'est devenu un peu un marronnier, c'est vrai, dans les articles de journaux. Moi, j'ai voulu garder ce titre parce que...
En France,
parce qu'aux États-Unis,
personne ne parle de French Touch.
Ah non, aux États-Unis, on reconnaît vraiment... Moi, j'ai interviewé Andrew Stanton, le réalisateur de Wall-E. Et quand je lui ai dit c'est quoi la French Touch, il m'a dit de quoi vous parlez. Bon. Mais par contre, parce que voilà. Mais par contre, il est clair que les Américains et les étrangers reconnaissent qu'il y a une certaine patte dans le graphisme des Français. Il y a une certaine originalité.
Par exemple, il parle dans cet entretien que j'ai lu avec vous, il parle de René Laloux et de la planète sauvage.
Il a découvert.
Qui est avant la French Touch.
Mais qui est un truc de fou, parce qu'il a découvert qu'on pouvait faire quand même des dessins animés pas destinés aux enfants en allant au Festival d'Annecy et en découvrant la planète sauvage.
C'est quand même dément.
Autant vous dire quand même qu'quand il venait à Annecy, il avait déjà 30 ans, quoi. Donc lui, il croyait que le dessin animé c'était que pour
le babysitting.
Effectivement, après quand on sait qu'il a fait Wall-E, il le dit lui-même. Bon, j'ai pas tout gardé dans l'interview. Il dit que Wall-E s'inspire en partie de la planète sauvage parce que voilà, il y a un côté un petit peu la façon de présenter cette planète. Il s'est inspiré de la façon dont Laloux l'avait présenté.
Fausto Fazio.
Non, c'était juste pour rebondir sur cette histoire de marronnier French Touch, parce que c'est une expression qui est quand même assez horripilante en fait et qui veut pas dire grand chose et qui est en plus employée pour plein de secteurs divers. Les Français qui travaillent dans le jeu vidéo, dans des grands studios à l'étranger, ça fait aussi partie de la French Touch, en musique, en cinéma, enfin. Après, c'est vrai que c'est assez juste French Connection, puisque là on peut vraiment parler de filière pour le coup, entre l'école effectivement et les studios américains, ouais.
Maître des ténèbres! Toi qui m'as aidé à devenir le premier magicien du monde. Toi, grâce à qui je peux réussir à changer un hibou en chien. Un chien en chat. Un chat en rat. Et même à faire pousser du blé dans le désert. Ô, maître des ténèbres, aide-moi maintenant à découvrir cet objet merveilleux. Cette lampe merveilleuse qui possède tous les pouvoirs, qui commande aux grands génies de la terre, de l'air, des ondes et du feu. Maître des ténèbres, révèle-moi l'endroit où je puis trouver cette lampe magique.
Écoute-moi, je vais te dévoiler le secret.
Tais-toi, houhou, tu me troubles dans mes méditations.
Tu as tort de ne pas vouloir m'écouter, car je sais tout, moi.
Tu vas te taire, sale bête, sinon je t'enferme.
Voilà l'extrait d'un dessin animé de Jean Image, grande figure.
Ah oui, grande figure.
Valière, Jean Image.
Bah, c'est lui quand même qui, avant Paul Grimaud, sort le premier long métrage d'animation en France. Hein. Tout le monde croit que c'est le roi et l'oiseau, enfin la bergère et le rabonneur. Non, c'est Jean Image avec ses petits moyens. Hein. C'était vraiment artisanal la façon dont il faisait ses dessins animés.
Quand on lit et qu'on randonne véritablement, parce que c'est une superbe randonnée à la fois historique et visuelle, il y a des magnifiques reproductions dans ce livre, Laurent Valière, on est confronté à toute une série de génies, comme ça, de personnages qui sont des créateurs, des inspirateurs fabuleux. Ça va depuis Émile Cole, Émile Reynaud, les tout premiers. Après, il y a effectivement Grimaud, il y a Starevitch, il y a Alexeïev et Parker, il y a Jean Image, hongrois donc d'origine, qui vient travailler en France. Il y a toute une animation beaucoup plus récente, on en parlera, La Planète Sauvage. On a l'impression que tous les grands animateurs français ont été à un moment ou à un autre confrontés à ce qu'on pourrait appeler, Laurent Valière, le syndrome de Méliès. C'est-à-dire, il y a une créativité extraordinaire, une inventivité, une innovation sur le plan technique formidable, mais ça doit s'arrêter là, ou ça doit demander l'aide d'autres types de création visuelle, parce que ça n'embraye jamais sur une production réelle, ou sur une économie de l'image et du film réel. Alors, quelle est un peu cette malédiction,
Laurent Valière ? Mais c'est exactement ça, quand vous imaginez que c'est exactement à la même époque que Félix le Chat est créé et que Walt Disney se met dans les années 1929 aussi à créer des dessins animés et qu'en 1937 on arrive à un premier long métrage d'animation qui est Blanche-Neige et les Sept Nains et que nous en 1937 on est toujours au même point, à savoir Robert Lortac fait des publicités avec les moyens du bord et donc ce sont des courts métrages qui durent 1 minute 30 secondes qui sont entièrement financés par des entreprises et que à côté de ça vous avez des artisans qui finalement considèrent qu'ils sont des artistes, c'est-à-dire que aux États-Unis l'invention arrive, c'est drôle parce qu'il y a et ça devient tout de suite une industrie.
Ben voilà,
et en France, ça reste un métier d'artiste,
d'artisan,
on considère. Mais non, c'est aussi d'artiste parce que certains vont considérer que finalement le cinéma d'animation c'est quoi? C'est après la peinture, après la sculpture, il y a le dessin animé. C'est une œuvre d'art. Alors que aux États-Unis, ils embrayent tout de suite. Il y a une blague comme ça qui dit qu'Emile Cole, qui a donc un grand chez nous, parce qu'en 1907, il va donner ses lettres de noblesse à l'animation, au sens où même Walt Disney et Norman McLaren vont le citer, parce que avec l'animation, il va montrer qu'on peut faire à la fois bouger des dessins, on peut faire bouger des marionnettes, on peut faire bouger du papier découpé. Enfin, il explore toutes les possibilités. Il fait taper un de ses personnages sur un autre, il n'y a pas de sang qui sort, donc il invente aussi un petit peu le cartoon. Et il paraît que quand il va pendant un an pour pâter aux États-Unis fabriquer ces mêmes dessins animés, il y avait des gens de chez Disney qui étaient sur un arbre accrochés pour regarder comment ils faisaient par-dessus, parce qu'il n'y avait pas d'école d'animation. Et donc, autant en France, on va rester dans cet artisanat, mais l'exemple type, c'est quand même Le Roi et l'Oiseau. Vous imaginez Le Roi et l'Oiseau. c'est quand même Paul Grémaud, il va mettre 30 ans, ou il est sorti quoi, en 1950 le film, il va mettre 30 ans.
79, oui.
Ouais, 30 ans pour aboutir à son film qu'il voulait. Parce que il va faire, il va commencer un film qui s'appelle donc La Bergère et le Ramoneur, environ en 1944, à la sortie de la guerre. On va créer le plus grand studio d'Europe. Il va y avoir 100 personnes qui vont travailler au studio des Gémeaux. Et puis à la fin, il y aura plus d'argent, il va falloir vite sortir en catastrophe et terminer le film à Londres, environ tout le monde. Et du coup, quand le film va sortir en 1953, à peu près, il y aura écrit Jacques Prévert et Paul Grémaud n'approuvent pas le film que vous allez voir, chers spectateurs. Et Paul Grémaud, il va mettre 30 ans pour récupérer les négatifs et pour terminer à sa guise ce film-là, afin qu'en 1979, quand le film sort, il puisse vraiment le signer avec Jacques Prévert et Paul Grémaud. Vous vous rendez compte? 30 ans.
La différence, est-ce que c'est pas qu'en France, on est arc-bouté sur la notion d'auteur et que même s'il délègue qu'il y a un studio, alors que Disney, c'est avant tout une production.
Mais ouais, mais
et qu'on met en place, par exemple, Disney, avant de faire Blanche-Neige, il a toute une industrie qui marche de court-métrage, oui, qui fait rentrer les sous, alors que l'autre, c'est d'emblée, je vais faire La Bergère et le Ramoneur. Effectivement, comme il est perfectionniste, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et il y a un moment, on lui dit, mon petit lapin, il n'y a plus de sous.
Mais c'est exactement ça. C'est aussi, d'ailleurs, ça se rapproche du fait qu'en France, l'auteur a final cut, alors qu'aux États-Unis c'est pas le cas. Mais vous demanderez à Michel Oslo pourquoi il est pas parti une fois à Los Angeles, parce que il a fait le créateur de Kirikou avait fait a passé quelque temps à Los Angeles, et je crois qu'il a même passé un entretien au studio Disney, et il dit mais moi j'ai pas envie de travailler pour un studio qui gomme le nom du réalisateur. Faut pas oublier que c'est Disney à l'époque, même Ubi Verks, qui est le co-créateur du personnage du Mickey, son nom était effacé. Il y a un gros logo qui s'appelle Disney, et tous ceux qui sont derrière, on ne sait pas. Donc voilà, on est resté dans le côté auteur, effectivement, pour le meilleur et pour le pire.
Christophe Azulot.
Oui, pour le meilleur et pour le pire, puisqu'en fait, s'il y avait eu cette infrastructure de studio en France, en termes de volume, je ne dis pas qu'on aurait pu rivaliser avec le Japon ou les États-Unis, mais on aurait pu voir peut-être aussi émerger des figures passionnantes au sein de l'animation française. Il manque aussi peut-être un système qui serait justement entre le artistique friendly et quelque chose qui serait produit et un petit peu dirigé. Je sais pas si je suis assez clair. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais à l'époque ou aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans ce cas-là.
Non, à l'époque.
Oui, à l'époque, il n'y avait pas de... En fait, ce qui est très paradoxal, c'est que le seul moment où le gouvernement a décidé d'aider l'industrie du dessin animé en France, c'est sous Vichy. C'est-à-dire, tout d'un coup, là, il y a eu plein d'argent. Mmh. C'est-à-dire qu'autant jusqu'à l'orée de la guerre, la seule façon de faire du dessin animé, c'était de se faire payer ça par des entreprises. Donc, ça pouvait être les Vins Nicolas, ça pouvait être Citroën, des gens comme ça qui permettaient donc aux animateurs d'aboutir à des films qu'on voyait, mais bon, voilà.
Oui, il y a un passage, j'en lis d'ailleurs, sur la publicité, l'animation, la publicité.
Bah, c'était les courts-métrages d'animation étaient avant tout publicitaires.
C'était essentiellement ça. Et tout d'un coup, en 1939, alors ça c'est le grand truc, mais c'est en même temps en 1940, sous Vichy, tout d'un coup on dit, il faudrait quand même créer une industrie européenne du dessin animé, et pourquoi pas avec les Allemands.
Alors là justement, il y a une volonté, je dirais, hitlérienne de contrebattre la puissance d'Hollywood. Tout ce que Hollywood fait, en plus Blanche-Neige, c'est quand même tout ça, ce sont des contes européens. J'imagine que tous ces obsédés du patrimoine arien et du patrimoine européen, quand ils voyaient tous ces contes comme ça, européens, travailler chez Disney, ils voulaient un peu envoyer une sorte de contre-message. Alors, j'imagine bien qu'effectivement, l'industrie allemande voulait contrôler. Alors, qu'est-ce que ça a donné à l'échelon français, l'animation sous Vichy?
Tout d'un coup, il y avait des courts-métrages, qui étaient des contes, quoi. Vraiment.
Et qui étaient diffusés, parce que, à l'époque, il y avait des dessins animés dans les séances de cinéma, en première partie.
Ouais, c'est ça, exactement.
Donc, avec les Allemands, plus question de servir dans l'énorme vivier américain. Donc, oui, il faut bien les fabriquer. C'est pour ça, au départ. C'est parce qu'il faut, des dessins animés, des courts-métrages d'animation pour les séances de cinéma.
Oui, et puis, ils veulent créer une industrie du dessin animé. Ils veulent un contre-pouvoir à déjà, les dessins animés qui sont fabriqués outre-Atlantique. Mais c'est de la même façon qu'ils interdisent les films
interdisent les américains. Il y a tout un développement du cinéma français sous Vichy qui est effectivement très intéressant, et ça concerne aussi l'animation.
Et le CNC, je crois, enfin l'aide au cinéma...
Le CNC est créé sous Vichy.
Est créé sous Vichy, quand même. Alors, donc, effectivement, ça va permettre quoi? Ça va permettre à... Enfin, c'est bizarre de dire permettre, mais... Effectivement, il y a des studios, il y a des producteurs qui vont avoir des subventions pour créer des dessins animés, avec des personnages. Alors, il y aura notamment, on parlait de Paul Grémaud, le studio des Gémeaux sera soutenu par Vichy pour pouvoir produire des courts-métrages. Alors, on arrive aussi à des courts-métrages complètement nauséabonds. Le pire s'appelant Nimbus Libéré, qui est réalisé par un certain Raymond Jeannin. Ça, c'est en 1944, et c'est un film qu'on peut voir sur YouTube, hein. Dans un style complètement élastique à la Disney, où vous voyez en fait, il y a le professeur Nimbus, personnage un petit peu connu à l'époque, qui est en France, et il écoute Radio Londres, et on entend à Radio Londres, on voit une ombre avec un écrochu qui se rapproche du micro de Radio Londres pour dire que vous allez être libéré, français, etc., etc. Et le plan suivant, on voit qui ? On voit Donald, Mickey, Popeye dans un avion américain en train de larguer des bombes. Et à la fin, évidemment, la maison de Monsieur Nimbus est rasée et il est mort.
Donc la transcription est vraiment méticuleuse de la propagande politique.
Alors voilà,
de
là,
la collaboration.
On arrive vraiment à des courts-métrages complètement odieux, oui.
Alors, quels ont été, on peut le dire, puisqu'il est souvent question d'innovation solitaire, de génie artisanaux, quels ont été les grands moments d'innovation technique dans l'histoire du cinéma français, de l'animation française ?
Le premier qui imagine qu'on peut poser, qu'on peut animer, qu'on peut faire de l'animation en posant une caméra à la verticale, c'est ça, au-dessus des papiers, c'est Émile Cole. C'est lui qui invente ce système. Après, il va y avoir d'autres innovations. Il y en a un qui est absolument fabuleux, il s'appelle Alexandre Alexeïev. Il est russe et avec sa femme, Claire Parker, ils inventent ce que j'appelle un peu l'ancêtre de l'impressionnisme. Enfin, pas l'ancêtre,
mais... Il est russe, mais russe blanc, c'est-à-dire qu'il est en France.
Il est immigré en France, ouais. C'est pas l'ancêtre de l'impressionnisme, mais il invente une façon de créer... des images qui bougent en utilisant non pas un papier et un crayon, mais en filmant un écran sur lequel il a posé 500 000 épingles. Il a un gros rouleau et en fait, son objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir retrouver les ombres et lumières qu'on peut avoir sur des sculptures. Et donc, il va, par exemple, réaliser un film qui est une illustration imagée, un peu comme il y aura Fantasia, de la nuit sur
le mont chaud
de Moussorski. Et donc, simplement en faisant image par image bouger ses épingles, il peut dessiner un champ de blé avec un épouvantail et le vent qui est en train de faire bouger un peu le blé ou une jeune femme qui est en train de courir. Et tout ça avec uniquement une sorte de gros râteau avec lequel il peut bouger les épingles. Alors autant dire que ça, c'est une technique qui va être mort-née. L'objet est toujours vivant, l'objet est toujours existant. Je veux dire, le CNC l'a préservé. Mais voilà, il va réussir à faire plusieurs films avec ça. Et puis après, les producteurs vont trouver que c'est un peu trop compliqué, un peu trop cher.
Voilà, c'est un bon exemple du.
Pour les raccords, c'est impossible. Vous voyez. Ah bah je me suis planté. Bah vous pouvez pas retrouver exactement le plan que vous vouliez ou l'image que vous vouliez. Quelques images plus tôt.
Alors ça, c'est donc l'écran d'épingle d'Alexeïev, c'est quelque chose de fameux. Et les résultats filmés sont éblouissants.
Oui, c'est magnifique.
À côté de ça, il y a Starevitch et les marionnettes animées.
Voilà. Alors ça, c'est un peu l'ancêtre des personnages de Tim Burton. Lui aussi est un immigré russe. Il faisait des films en prise de vue réelle en Russie et quand il arrive en France avec sa fille, avec sa femme, il va donner naissance à des marionnettes qui font à peu près 80 cm de hauteur. Et les gens quand ils vont voir ces histoires de romans de renards et de souris qui dansent, etc., c'est tellement réaliste dans l'animation de sa marionnette qu'ils vont envoyer des courriers en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi vous vous martyrisez à ces animaux ?
We'll be right back. France Culture, Mauvais Genre, François Angélil.
Alors avant de parler de cette date clé qui est la planète sauvage, on peut évoquer bien sûr le roi et l'oiseau, on en a déjà parlé. Laurent Vallière, là on est véritablement, après la bergère et le ramoneur, dans une sorte d'imaginaire, je dirais assez traditionnel en France, parce qu'autant il y a tout un travail révolutionnaire sur l'animation, de grande virtuosité technique, mais on reste dans des thématiques qui sont assez traditionnelles.
Mais en fait, ce qui est intéressant avec Paul Grimaud, parce que là on parlait d'artisanat, et on disait qu'on faisait avec les moyens du bord de l'animation, quand il crée le studio des Gémeaux avec André Saru, Paul Grimaud dit, en gros, nous, on veut utiliser les techniques maintenant utilisées par Disney à Hollywood. On veut utiliser les fameux celluloïdes qui permettent justement d'avoir des dessins très souples, alors que jusqu'à présent, on n'en est pas là. Et donc, c'est d'abord pour ça que Le Roi et l'Oiseau va être admirable, parce qu'objectivement, ça bouge comme du Disney. Après, c'est juste que le contenu politique est un peu plus gauchiste que chez Disney. C'est
un clair. Peu plus adulte aussi, peut-être.
Un peu plus adulte, oui, c'est ça. Bon, c'est quand même Jacques Prévert qui écrit le scénario, qui adapte La Bergère et le Ramoneur, parce qu'au départ, ça s'appelle, on appelle ça Le Roi et l'Oiseau, mais c'est vrai qu'en 1953, quand il sort, ça s'appelle La Bergère et le Ramoneur.
Du nom du conte d'Andersen.
Du nom du conte d'Andersen, et ça parle quand même d'un roi complètement tyrannique qui se fait fabriquer des sculptures à son effigie et qui torture deux pauvres êtres.
Alors ça justement, on va le revoir avec René Laloux, c'est quand même des connexions idéologiques fortes entre le milieu de l'animation et, je dirais, le milieu politiquement engagé, plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche. C'est-à-dire que là, on n'est pas là, on a parlé de Vichy pour chanter la gloire, je dirais, de l'État ou de la tradition française dans tout ce qui est un peu figé, un peu officiel. Ce sont des contes, ce sont des histoires, des narrations un peu pour enfants, mais qui ont toujours quand même un fond extrêmement libertaire, presque.
Oui, il continuera d'ailleurs après Paul Grimaud dans ce genre-là. Enfin, en fait, auparavant, il avait déjà réalisé Le Petit Soldat, quand même, qui était un court-métrage où on voyait qui est un film anti-belliqueux, on peut dire ça comme ça, qui est réalisé juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Auparavant, il dessinera un court-métrage qui s'appelle L'Épouvantail, avec l'histoire d'un épouvantail, en fait, qui cache à l'intérieur de son grand manteau des oiseaux pour pas les effrayer. Donc, effectivement, il y a ce côté très généreux qu'on retrouve dans les films de Paul Grimaud. Et quand il montre à sa propre structure de production, parce que il se sera séparé de son partenaire André Saru, il continuera dans des films qui dénonceront le capitalisme, qui dénonceront la fin dans le monde et des choses comme ça, oui.
Et ces films sont réunis dans un titre qu'il a sorti en salle sous le titre La Table Tournante, oui, qu'on peut trouver en DVD et qui est en bonus parce qu'il y a une magnifique édition chez Studio Canal, oui, du Roi et l'Oiseau, extraordinaire, DVD et Blu-ray, et en supplément il y a Table Tournante qui contient la plupart des courts-métrages de Grimaud.
A commencer aussi les premières publicités d'ailleurs.
Absolument.
Une veine libertaire donc qui va se maintenir bien, puisque Fausto Fazulo, elle explosera, on peut dire, dans les années 70 avec les Shadocks. On peut pas ne pas parler des Shadocks, qui restent quand même comme le grand attentat à la dignité.
C'est complètement le mot attentat. C'est peut-être la déflagration d'anarchie la plus folle et sans précédent qu'ait connu le cinéma d'animation français. C'est assez dingue de se dire aujourd'hui que ça passait juste après le journal télévisé. J'ai évidemment pas connu ça, mais je pense que ça devait créer des transes. Ça a créé des polémiques, mais des transes chez les spectateurs.
Je peux témoigner que ça les a effectivement
créés. C'était génial en famille.
Ça scindait les familles, scindait les bureaux, les collectivités de travail. Je ne veux pas dire que ça scindait aussi les conversations de comptoir, mais il y avait ceux qui considéraient que les Shadocks, c'était véritablement enfin quelque chose où on respirait, et d'autres qui considéraient que c'était vraiment de l'abêtissement.
Voilà,
et c'était un scandale
que ça pompait, souiller ça pompait,
l'écran
voilà,
télévisé avec une chose pareille.
En fait, ça avait été imaginé par Jacques Rouxel quand il avait visité les États-Unis et qu'il était tombé sur ces cartoons cartoons qu'on voyait chaque jour dans les quotidiens. Et il s'était dit, mais finalement, pourquoi on ne pourrait pas avoir une bande de cartoons tous les jours à la télévision? Alors après, il avait, ce qui était un attentat, c'était, comme vous dites, entre guillemets, c'était la thématique, quoi, la bêtise des Shadok et la bêtise de l'homme qui était montrée chaque jour. Mais c'était aussi le style graphique qui était complètement à l'opposé de ce qu'on était chez Disney, puisque c'était un style à la Saul Steinberg, avec des, voilà, très, très grand, schématique, les personnages, les oiseaux qui ressemblaient en rien des oiseaux. Et puis enfin, l'idée de génie, c'était quand même celle de Pierre Schaeffer, qui était à l'époque le directeur du service de la recherche de l'ERTF, qui avait initié, enfin, qui avait accepté le projet de Jacques Rouxel, et qui avait dit, ben, on n'a qu'à effectivement diffuser ça tous les soirs à 20h30.
Mais déjà, rien qu'un directeur de la recherche, ça sonne merveilleux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un directeur de la recherche sur France 2 et France
Pierre
3
Schaeffer.
Aujourd'hui.
Alors effectivement, il y a les Shadok qui incarnent, je dirais, l'esprit de sécession, hein, irrévérent, dadaïste, libertaire, qui est un peu lié à toute cette télévision des années 70. Il y avait aussi bien du tac au tac, où on voyait des grands dessinateurs faire des cadavres exquis, ou avertis, pulvériser littéralement la télévision chaque fois qu'ils le pouvaient. Grande liberté de ton, qui était celle de l'époque. Mais est-ce qu'on peut dire qu'après, Laurent Vallière, les noces de la télé de l'animation ne sont pas devenues quand même beaucoup plus tranquilles? Je sais pas, moi, le manège enchanté, Joël les abeilles, ça c'était un public peut-être plus jeune, mais c'était plus maîtrisé, c'était plus commercial quand même.
Oui, en fait, ça me fait penser, vous savez, à l'histoire de la bande dessinée, tout simplement. Pendant très longtemps, la bande dessinée pour les enfants, et à partir des années 60, de Mad, de Pilote, eh ben, tout d'un coup, on se dit, ben, finalement, enfin, on a grandi avec, et puis ceux qui ont grandi avec ont 20 ans ou 30 ans, et ont envie d'utiliser ce genre pour parler d'histoires d'adultes. Alors, c'est vrai, ce que vous dites, c'est que, en fait, il y a l'animation. Le bouquin, j'ai voulu à tout prix parler de l'animation au cinéma et de l'animation à la télé. Et parce que ce sont quand même deux choses assez différentes. Après, les courts-métrages font partie du cinéma. Et quand vous dites Le Manège Enchanté, quand vous dites Ulysse 31, Margoton, peut-être...
Margoton et Zébulon.
C'est vrai que à partir des années 70, les séries d'animation pour la télévision, c'est surtout pour les enfants. Enfin, voilà, et même encore aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus édulcoré. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, vous avez plein d'animateurs, d'animation, bon, qui vivent de ce métier-là et qui sont très heureux, mais qui n'en peuvent plus de faire des jolis dessins.
Mais bon, mais en même temps, quand on a Chapi Chapeau, c'est quand même...
Dites pas du mal de Chapi Chapeau.
Mais justement, François, je dis pas du mal, je dis que ça flirte avec l'abstraction.
Voilà,
ça
bien sûr.
Ça peut être pour les enfants, je veux dire, on se moque pas de leur figure. Quoi.
C'est vrai. C'est vrai. Les deux Italiens de Bello Capi, effectivement, il y avait aussi des séries pour les enfants, plutôt...
Très ambitieuses.
Ambitieuses, ouais, effectivement, mais... Bon, même Ulysse 31 ou même les Mystérieuses Cités d'Or, c'était un peu ambitieux, vous savez. Oui, vous rappelez, à la fin, quand même, des Mystérieuses Cités d'Or, il y avait un documentaire de 5 minutes totalement chiant pour les enfants. Qui regardait ça, c'était en prise de vue réelle et ça donnait des leçons de vie.
Tout cet héritage dont on vient de parler, il est revendiqué par tous les animateurs auxquels vous donnez la parole dans votre livre, Laurent Vallière, puisque à l'image d'un Pascal Pinto dans son beau livre sur l'histoire des effets spéciaux, vous donnez la parole aux professionnels de la profession.
Vous pourriez peut-être juste dire un mot sur comment l'ouvrage est composé. Voilà. Parce que effectivement, l'ouvrage est historique. C'est ce dont on parle depuis le début de cette émission avec vous. Et chaque chapitre historique est il y a une sorte d'intermède qui est en fait sous forme d'entretien que vous menez avec pour mettre l'éclairage sur un poste différent dans l'animation, que ce soit un illustrateur, un décorateur, un storyboarder, où il y a Marjane Satrapi qui raconte ce que c'est que de passer de la bande dessinée au film. C'est vrai que quand elle fait Persepolis, on pourrait dire bah, c'est facile, elle a fait 3 albums, toc, on fait les intervalles entre les cases. Pas du tout. Mmh. Ça peut pas marcher comme ça. Mmh. Il faut même tout repenser parce qu'effectivement, quand on lit les BD de Satrapi, il y a énormément de bulles, de textes, donc des décors minimalistes. Et évidemment, dans son film, il faut qu'elle fasse autre chose. De même, il faut qu'elle fasse, on peut pas mettre que du noir et du blanc. Donc vous racontez ça.
Elle dit, faut pas prendre en otage le spectateur. Parce qu'elle dit, si j'avais pris mes bandes dessinées comme des storyboards et que je les avais adaptées au dessin animé, d'abord le film aurait fait 8 heures, ce qui est impossible, et j'aurais pris en otage les spectateurs. Donc il faut que je reconstruise tout. Ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, on croit toujours que la bande dessinée et le dessin animé, c'est un peu pareil. Pas du tout. Elle dit, voilà, il faut créer un moment pivot. Et oui, il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, c'est quand Benjamin Renner explique un petit peu comment, qu'est-ce que c'est que le métier de faire bouger
Benjamin Reiner,
le réalisateur de Ernest et Célestine, et cette semaine du formidable Grand Méchant Renard. Et il explique un peu les techniques d'animation. Il explique par exemple, moi j'ai adoré quand il explique ça, le wipe, c'est-à-dire, vous savez comment les effets à la Tex Avery, là, comment ça se fait que
quand on met une gifle.
Voilà, quand vous donnez une gifle à quelqu'un, comment faire pour qu'à l'écran ça rebondisse bien et qu'à un moment, il y a toujours la main qui prend la forme d'une poêle à frire qui est complètement déformée pour que quand
au moment du contact avec la peau de l'autre.
Voilà, exactement, ça fasse un effet un petit peu élastique.
Laurent Vallière, cinéma d'animation La French Touch aux éditions La Martinière et Arte Édition.
Chapeau, un choix de Laurent Polleret.
Formidable, merci Laurent.
Bravo Laurent Polleret. Bah oui, musique.
François de Roubaix quand même. C'est pas rien.
Non, mais si vous avez envie de savoir ce que c'est qu'un grand travail formel sur l'image, l'animation, vous écoutez, vous regardez Chapi Chapeau.
Hein. Il y a une cinquantaine de numéros.
Là, vous me posez une colle.
Attention.
Il n'y en a que 50, peut-être. Je ne sais pas.
Au 30e épisode.
Au pied du mur. En tout cas, voilà, à voir et à revoir Chapi Chapeau. On passe maintenant aux chroniques, sans quitter d'ailleurs notre sujet de ce soir, l'animation française, un mauvais genre sur France Culture. Et on attaque avec vous Philippe Rouillet et avec ce classique. On parlait du Roi et de l'Oiseau, on parlait d'Alexeïevitch, on parlait de Starévitch, Alexeïev, pardon. Et là,
La planète sauvage, la planète sauvage qu'on avait déjà en DVD chez Arte, mais je peux vous dire, vous remettez de côté votre ancienne galette et vous achetez la nouvelle parce qu'il y a une restauration en 2016, une restauration à partir du négatif. Et vraiment, ça se voit, quoi. C'est-à-dire que dès les premières secondes, on est stupéfait par la netteté du trait, la richesse des couleurs pastel. C'est absolument un délice absolu. Alors, ce film, rappelons-le, qui est quand même en compétition à Cannes en 1973, et qui rafle le Grand Prix du jury. Et il est face à des films en prise de vue réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une section animation. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une des rares fois où le long métrage animé vient. Alors c'est assez nouveau à l'époque. On quitte pas tout à fait Laurent Vallière avec ce DVD puisqu'il intervient. Laurent, vous êtes en bonus. Pendant 20 minutes, vous racontez en quelque sorte la genèse. Et c'est complété par un autre bonus qui est très très bon aussi, qui est un film de Florence Domant. Donc, puisque le film est produit par Anatole Domant. Qui a un film avec Lalou qui reprend des entretiens qu'il a donnés en 2001, donc avant sa disparition, et qui raconte aussi très concrètement le tournage, parce qu'en fait, il n'y a pas d'industrie du dessin animé quand il s'y met à la fin des années 60. C'est l'adaptation d'un roman de science-fiction. Donc,
Stéphane Voule, en série.
Les hommes, ou sont plutôt les hommes, OMS sont des sortes d'animaux sauvages qui sont
microscopiques,
alors que des géants bleus en fait les ont visés, quoi. Et comment ça va être la révolte? Ça va être la révolte des esclaves, et c'est une révolte par la culture. Ça, c'est des idées auxquelles croyait beaucoup Lalou, et il s'acoquine avec Topor, sur lequel il travaillait déjà depuis quelques années, pour le graphisme et l'univers. Mais en même temps, une fois que Topor a décidé les personnages, les planètes, les machins, c'est pas Topor qui va faire le dessin animé. Et Lalou va en Tchécoslovaquie travailler. Mais on est à la fin des années 60 et il va avoir le printemps de Prague, etc. Et il raconte cette histoire complètement démente que le film va être sous clé pendant 2 ans. C'est-à-dire que comme lui refuse de se coucher et de pactiser avec l'ennemi soviétique, il a sympathisé avec ses animateurs tchèques et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de La Planète Sauvage, on voit comment Lalou, qui fait 3 longs métrages, à chaque fois va devoir s'exporter de France, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de French Touch. Donc, le succès énorme, La Planète Sauvage, 800 000 entrées. Mmh. 800 000 entrées, c'est pas rien en 73. Et c'est des adultes et tout ça. Et derrière ça, alors que ce film-là a été une commande, il n'en a pas d'autre.
Bah ouais.
Il n'en a pas d'autre pour faire un long métrage.
On retrouve de nouveau.
Il va falloir 10 ans pour qu'il fasse Les Maîtres du Temps.
Et encore, il
et
va
encore,
dans des conditions,
voilà, dans des conditions pourries. Et après, il fait Gandahar en Corée.
Corée du Nord. Et alors là,
en Corée du Nord.
Il portait pas l'idée d'aller en Corée du Nord, mais c'était le seul endroit.
La Pyongyang Touch.
Ben, y avait toute une conférence à Annecy avec Philippe Casa notamment, qui avait dessiné Gandahar et qui expliquait que voilà, c'était dans cet atelier d'animation, il n'y en avait qu'un qui savait bien dessiner. Donc c'était une horreur.
Et donc dans cette très belle édition, il y a aussi des courts-métrages, les courts-métrages de René
Fazulo.
C'est vraiment inestimable que de voir ces courts-métrages-là. Déjà, ça nous permet de voir la collaboration entre Topor et Lalou juste avant La Planète Sauvage. Il y a cet extraordinaire film qui s'appelle Les Escargots, une invasion de gastéropodes où il y a encore question de gigantisme. Mm. Là, on a l'impression de voir un Kaiju Eiga, en fait, mais en animation, avec ces escargots géants et puis, désolé, je raconte la fin, des lapins aussi géants. Donc, on est plutôt servi. Et il y a ce film aussi extraordinaire, qui s'appelle Les Dents du Singe, qui est littéralement, à ma connaissance, peut-être le seul court-métrage d'animation art brut, en fait.
Oui, parce que fait dans un hôpital psychiatrique.
C'est ça. C'est une histoire incroyable. Parce qu'en fait, René Lalou, il y a une très très bonne exposition actuellement à Annecy, au Musée Château, avec plein de documents qui appartenaient à René Lalou. Il fait partie de ces réalisateurs qui ne dessinait pas. Et donc, à chaque fois, il demandait à un graphiste de dessiner. Donc, Roland Topor pour La Planète Sauvage. Et là, en l'occurrence, pour Les Dents du Singe, c'était au patient d'un hôpital psychiatrique qu'il avait demandé de dessiner les décors et les personnages. Charge à lui d'animer.
Voilà, le temps nous presse. Je ne peux pas vous parler, comme j'aurais souhaité, de l'exposition formidable qui démarre à Cherbourg, au musée Thomas-Henry. Little Nemo, de Winsor Mackay de Little Nemo Lusitania, par contre, qui est jusqu'au 1er octobre, qui est une extraordinaire exposition. J'en parlerai la semaine prochaine, parce que pour la première fois, et sûrement la seule fois, on peut voir 70 planches originales de Winsor Mackay, ce véritable génie de la bande dessinée. C'est une exposition à ne pas rater. On en parlera là. Semaine prochaine pour notre dernière émission de la saison, mais en attendant, bien évidemment, comme chaque fois, nous terminons ce mauvais genre avec Christophe Beer.
Près du lac.
Effets de synthé et compositions électroniques, hurlements de femmes nous propulsent dans l'univers sonore entêtant du Lac des Morts-Vivants, film ultra-fauché exécuté par Jean Rollin en 1980. Sur des grandes orgues discordantes, une patrouille famélique de zombies nazis émergeait 30 ans plus tard, verdâtres et exorbités du lac d'un village français, pour décimer une équipe de basketteuses topless qui prenait le bain dans des accords jazzy lounge ponctués de vocalises riantes. Ce marasme artistique au succès pourtant planétaire porte la griffe artisanale et foraine d'Eurociné, maison de production la plus pingre de l'Hexagone. Convoqué en urgence, Rollin sauve ce qu'il peut de poétique et Howard Vernon garde un sérieux convaincant, pour ainsi dire décalé, face à des partenaires jouant faux avec acharnement. Le compositeur de la bande originale tire lui aussi cette folie sur les crêtes de l'étrangeté, bricolant sur son petit magnétophone une partition hétéroclite qui mêle les influences de Pierre Boulez, l'easy listening de l'école italienne, des sonorités stridentes travaillées et la répétition de bruitages absurdes. Ah, les sempiternelles trois notes du seul oiseau de cette campagne. Ce maître d'œuvre inspiré est Daniel White. Pianiste de discothèque dans l'après-guerre, auteur d'une quantité impressionnante de musique d'ambiance pour le catalogue Montparnasse 2000, il compose ses premières BO pour le cinéma dès 1947, connaît la renommée avec le feuilleton Belle et Sébastien et reste cher à nos yeux pour sa longue association avec Jess Franco. pour le lac. Il reprend d'ailleurs les violons déchirants de la Comtesse Noire du cinéaste madrilène. À défaut d'un master original des pistes audio, le CD d'Omega Productions Records, label créé par le fétichiste Luca Giorgini, puise dans diverses sources et restitue 23 pistes, soit près de 40 minutes d'écoute, faites des musiques de White, d'effets sonores, d'extraits de dialogue, des grommelots des figurants amateurs et de la voix métallique d'Howard Vernon. C'est le premier CD très réussi d'une collection horreur à la française, tirage limité à 500 exemplaires en précommande, qui sera suivi de La Revanche des Mortes Vivantes, composée par Christian Bonneau.
Merci Christophe Beer, merci Laurent Vallière d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour ce livre dont je rappelle le titre et que je conseille hautement. Cinéma d'animation La French Touch chez La Martinière et Arte Édition. Signale également La Planète Sauvage chez Arte Édition en Blu-ray et DVD. Puis la très belle exposition Little Nemo Vincent Mackay visible à Cherbourg jusqu'au 1er octobre. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Ponneret, Guillaume Leduc, Claire Martin-Dugard, Chloé Leblond, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Beer et François Joliet, vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, un gigantesque tutti frutti où l'on essaiera de rassembler et de remplir au mieux votre sac de plage. Et d'ici là, bonne nuit à l'écoute de France Culture où l'on retrouve Amaury Chardot et Métronomique.